Radio Prague, les informations.
Bienvenue à l'écoute, voici tout de suite les titres. Gaz, le Premier ministre tchèque est en Asie centrale pour parler de cette question épineuse. Un sommet extraordinaire sur la crise aura lieu à Bruxelles le 1er mars prochain. Et puis Peugeot Citroën n'exclut pas d'avoir recours à des licenciements également hors de France. Le Premier ministre tchèque Mirek Topolánek est en déplacement en Asie centrale pour une visite de deux jours durant laquelle il est notamment question du gaz. Lors de sa rencontre jeudi avec son homologue kazakh, il a déclaré que l'Union européenne était intéressée par des livraisons de gaz du Kazakhstan et d'autres pays d'Asie centrale qui réduiraient la dépendance de l'Union européenne vis-à-vis du gaz russe. Le Premier ministre kazakh a pour sa part déclaré qu'il lui fallait considérer toutes les parties, dont la Russie, qui assure le transport de la majeure partie du gaz d'Asie centrale. Vendredi, Mirek Topolánek sera au Turkménistan et en Azerbaïdjan. Un sommet extraordinaire informel sur la crise se déroulera à Bruxelles le 1er mars prochain. Il rassemblera les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays de l'Union. Les Tchèques espèrent y entendre un refus clair du protectionnisme, suite, vous le savez, aux récentes déclarations de Nicolas Sarkozy sur de possibles relocalisations, même si le président français est ensuite revenu sur ses propos. José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, a également annoncé que la présidence tchèque allait organiser en mai prochain une réunion extraordinaire sur les conséquences de la crise sur le chômage. En réaction à l'annonce du prochain sommet à Bruxelles, le président de la République tchèque Václav Klaus a déclaré que cette réunion du 1er mars était inutile. Lors d'un séminaire à Paris, Václav Klaus a répété son opinion selon laquelle les crises étaient des phénomènes économiques naturels. Le président de PSA Peugeot Citroën, Christian Streif, n'exclut pas d'avoir recours à des licenciements hors de France pour atteindre ses objectifs de réduction des coûts. C'est ce qu'il a dit jeudi dans le Financial Times. Cela dépend de la législation de chaque pays, a déclaré Christian Streif au quotidien économique, après avoir annoncé une perte nette de 343 millions d'euros pour son groupe en 2008. L'engagement pris par les constructeurs français PSA et Renault à ne pas délocaliser, et à garder l'emploi en France est au centre des critiques, notamment de la République tchèque et de la Slovaquie, qui accueillent des usines automobiles françaises, mais aussi des critiques de l'Allemagne et de la Commission européenne qui y voient des mesures protectionnistes. On parle maintenant de sport avec du foot et le joueur Tomáš Rosický, l'ancien international tchèque qui a enfin pu retoucher un ballon la semaine dernière à l'entraînement. Blessé au genou depuis plus d'un an, le Mozart tchèque, comme on l'appelle, a dû passer par de nombreux pépins physiques avant d'y parvenir. Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, a révélé qu'il pourrait être de retour dans 5 semaines. Le joueur tchèque a déclaré qu'il avait enfin pu faire un entraînement intensif pour la première fois. Le coach français se dit rassuré par sa progression et optimiste pour la suite. On termine avec la météo. Vendredi, jour de fête des Vienceslav en République tchèque, un temps couvert est attendu avec des chutes de neige qui sont prévues sur la majeure partie du territoire. Température maximale autour de 1 degré. C'était le bulletin d'information présenté par Alexis Rosenzweig.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Après les dernières informations présentées par Alexis, voici donc notre magazine de l'actualité qui sera marqué tout au début par les changements adoptés par la Chambre des députés dans le système des taxes de régulation sur les soins médicaux. Le sujet sera développé par Jaka Gisubelova. Václav Richter, lui, nous emmènera en Belgique avec une exposition sur la décadence et Anna Kubishta au festival du film pour les durs à cuire. Nous terminerons avec du football et le match amical qui a opposé la Tchéquie au Maroc dans la soirée de mercredi. Toute la rédaction vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. À partir du 1er avril, les enfants de moins de 18 ans ne devraient plus payer l'ensemble des taxes de régulation sur les soins médicaux. Une exemption annuelle à hauteur de 2500 couronnes sur les médicaments devrait également concerner les personnes âgées de plus de 65 ans. Plus de détails avec Jarka Gisubelova.
changement partiel en attendant une nouvelle modification. Ainsi pourrait-on résumer une nouvelle partie de l'interminable feuilleton des taxes de régulation sur les soins médicaux que l'opposition cherche à supprimer. Ce mercredi, la Chambre des députés a réussi à imposer le projet modifié par le Sénat, qui, s'il est signé par le président de la République, marquera la fin des taxes de régulation pour les enfants de moins de 18 ans. Mais pas de toutes les taxes, les enfants ne paieraient plus les 30 courants réglementaires chez le praticien ou le spécialiste, mais la taxe de 90 couronnes pour les services d'urgence et de 60 couronnes pour une journée à l'hôpital serait maintenue. Les députés ont également voté un montant limite de 2500 couronnes sur les médicaments pour les personnes de plus de 65 ans. Pour la ministre de la Santé, Daniela Filipiova, il s'agit d'un bon compromis, même si la social-démocratie le voit autrement.
La social-démocratie, qui pense avoir gagné les élections régionales avec la promesse de suppression des taxes, continuera à jouer cette carte sans tenir compte du fait que les taxes de régulation ont leur raison d'être et que la pratique a démontré leur effet. Le nombre de personnes pouvant bénéficier des traitements coûteux a augmenté et le gaspillage des médicaments a cessé.
L'ancien ministre de la Santé et actuel président social-démocrate de la région de Bohême centrale, David Rath, est déçu du projet voté.
Je pense que ce résultat n'est pas bon du tout pour les citoyens, car les retraités et les personnes qui touchent les pensions d'invalidité sont obligés de continuer à payer les taxes et les enfants n'en sont libérés que partiellement.
Le succès de la coalition qui a résisté à la pression sur la suppression des taxes a divisé l'opposition, autrement unanime à cet égard. La social-démocratie a reproché aux communistes d'avoir aidé la coalition à voter le projet par la majorité étroite d'une seule voix. Le thème des taxes ne disparaît pas pour longtemps du programme de la Chambre. Les députés sociaux-démocrates ainsi que communistes ont déjà soumis le projet de leur suppression.
Parmi les manifestations culturelles accompagnant la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne, il y a aussi deux expositions dont les auteurs se proposent de faire découvrir au public belge le phénomène de la décadence dans les pays tchèques entre 1880 et 1914. Du 30 janvier au 10 mai, les Belges ont l'occasion de voir à l'Hôtel de Ville de Bruxelles et au musée provincial Félicien Rops de Namur les deux parties d'une seule exposition intitulée « Décadence, pays tchèque, 1880-1914 ». Plus de détails avec Václav Richter.
Le mouvement de la décadence s'impose en Europe et dans les pays tchèques vers la fin du XIXe siècle. Parmi les thèmes qui dominent les inspirations des artistes de cette période, il y a l'introspection, le mystère, les fantasmes sexuels, les pratiques religieuses obscures et l'image de la mort. Malgré les couleurs maladives de leur création, les décadents en fin de siècle se distinguent cependant aussi par leur humour et par l'innovation formelle. Le commissaire des expositions de Bruxelles et de Namur, Otto M. Urban, souligne l'aspect international du mouvement.
L'idée de la décadence tchèque a surgi dans une situation qui s'était produite dans le milieu tchèque après l'achèvement de la construction du Théâtre national de Prague, donc dans les années 1880, où il semblait que le concept de l'art national, lié avec la résurrection nationale tchèque, avait été accompli. Il en a résulté un certain vide que les artistes désiraient combler. Ils cherchaient donc un autre grand thème et ils ont réalisé qu'il était important de s'opposer au concept national et de s'ouvrir aux influences étrangères. Les décadents, au moins au début de leur mouvement, s'efforçaient d'intégrer l'art des pays tchèques dans le contexte culturel européen.
Les auteurs des expositions ont divisé les œuvres prêtées par de nombreuses institutions en deux catégories. Dans la première, exposée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, il y a les œuvres inspirées par l'introspection de l'artiste et l'agonie de l'individu. Dans la seconde, présentée au musée Félicien Rops de Namur, il y a des œuvres évoquant la fatalité de l'amour et les aspects démoniaques de la sexualité. Le visiteur se rend compte que le mouvement de la décadence a influencé presque tous les artistes tchèques importants de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, et l'exposition lui fait découvrir aussi le rôle joué dans ce mouvement par les artistes allemands et autrichiens établis à Prague. Une partie des œuvres exposées démontre l'évolution ultérieure du mouvement de la décadence qui a débouché sur des recherches formelles et a donné naissance aux avant-gardes expressionnistes et cubistes. Plus de détails sur la décadence dans les pays tchèques dans notre émission Rencontre littéraire du 14 février.
Âme sensible, s'abstenir. Vendredi commence le festival du film pour les durs à cuire qui, comme son nom l'indique, s'adresse à un public qui n'a pas froid aux yeux. Pendant 6 jours, les fans ou les curieux pourront découvrir des films d'horreur et autres longs et courts métrages alternatifs qui ne répondent pas au canon esthétique ordinaire du cinéma. Anna Kubishta.
De l'hémoglobine, du sang, de la violence, du sexe aussi. Tout cela dans des films qui se veulent sérieux ou alors dans des films qui n'ont pas d'autre prétention qu'être des films de série B. Tout cela à profusion et plus si besoin est. Le cinéma de genre débarque à Jijkov dans la salle de l'Aéro. Et évidemment, il faut avoir les nerfs solides. Il semble pourtant que ce type de cinéma ait trouvé une petite place dans la programmation de certaines salles par le biais de festivals. Pour un des organisateurs de ce festival, Yeri Figel, il s'agit de montrer au public que le cinéma se joue aussi à la marge dans des registres comme le gore ou l'horreur.
La sphère académique et les studios de cinéma ne s'occupent plus depuis longtemps uniquement de films de qualité. Ces notions de qualité et d'esthétique sont depuis longtemps obsolètes. Aujourd'hui, les spécialistes du cinéma s'intéressent également aux marges de la production cinématographique, car ces films sont aussi les produits d'une époque.
D'ailleurs, le film qui inaugurera la 5e édition du Festival du film pour les durs à cuire a été présenté l'an dernier lors du dernier Festival de Cannes. Martyr est un film du réalisateur français Pascal Laugier et produit par Richard Grandpierre qui avait financé le très controversé Irréversible. Martyr a suscité la polémique sur la croisette pour la façon dont il représente la violence jugée insupportable. Le festival du film pour les durs à cuire, c'est à Prague, au cinéma Aéro, du 10 au 15 février et du 22 au 24 février à Brno.
Le match amical qui a opposé la Tchéquie au Maroc dans la soirée de ce mercredi à Casablanca n'a fait que confirmer une chose. Il manque un meneur de jeu à l'équipe tchèque qui voudrait bien se qualifier pour le mondial de 2010. Le match nul, 0-0, avec une équipe considérée comme un outsider, confirme pleinement cette constatation. Ce match nul, alors que le Maroc jouant devant 38 000 supporters était beaucoup plus près de la victoire sur son terrain, ne fait que prouver que l'absence du capitaine tchèque Tomáš Rosický, blessé depuis un an, se fait de plus en plus sentir. Les internationaux tchèques, dans la phase de préparation au match de qualification du printemps pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud, démontrent vraiment qu'ils ne sont pas au meilleur de leur forme. C'est valable aussi pour Marek Matějovský, qui remplace Rosický en tant que meneur de jeu, mais qui ne joue pas beaucoup ces dernières semaines et passe beaucoup plus de temps sur le banc du club anglais de Reading. Le sélecteur national, Petr Rada, le confirme d'ailleurs.
Si au moins l'entraîneur de Reading lui donnait plus de chances de jouer afin qu'il soit plus utile pour notre équipe. Naturellement, on ne peut pas rendre un jugement après une demi-heure de jeu, mais il est clair quand même qu'il n'a pas encore assez joué depuis le début de la saison.
Il faut dire que les Marocains ont vraiment surpris les Tchèques dans la première partie du match. Ils étaient très offensifs et les coéquipiers de Tomáš Ujfalushi, qui portaient le brassard de capitaine, n'ont pas montré une grande combativité. Dans la seconde partie, avec la mise en place de 2 attaquants, la sélection tchèque a amélioré son jeu et Roman Bednář avait même la victoire au bout de sa tête, qui termina malheureusement sur le poteau. Il le regrettait amèrement après la rencontre.
Je suis toujours très critique à l'égard de mon jeu. Pour cela, je pense que j'aurais pu marquer le but. Je n'ai pas tout bien vu, mais en tant qu'attaquant, j'aurais dû marquer un but avec cette tête.
L'entraîneur Petr Rada regrette aussi de ne pas avoir pu disposer pour ce match de préparation du milieu de terrain Libor Sionko, qui évolue dans les rangs du FC Copenhague. Ce dernier souffre en effet d'une blessure à la cuisse. Mais sera-t-il présent, ainsi que le capitaine Rosicki, dans un mois et demi pour deux rencontres qui pourraient bien décider de la participation de la Tchéquie au Mondial 2010? Comme l'affirme Uifa Ilushi, les matchs de qualification du 28 mars sur le terrain de la Slovénie et du 1er avril en Tchéquie contre la Slovaquie seront décisifs. Eh bien, c'est la fin sur Radio Prague de ce magazine d'actualité et place maintenant à la rubrique habituelle consacrée à la vie de la société.
Miroir de la société. Alena Gebertova.
Le traité de Lisbonne sera le principal thème, mais pas le seul, d'un entretien que nous avons réalisé cette semaine à Prague avec M. Hubert Hennel, sénateur et président de la Commission pour les affaires européennes. Rappelons que, tandis que les Irlandais ont dit non au traité de Lisbonne par référendum, la représentation politique tchèque continue à fainéanter quand il s'agit ne serait-ce que d'engager une véritable procédure menant à la ratification de ce document fondamental. Le débat sur Lisbonne a été une nouvelle fois reporté par la Chambre des députés, notamment suite à l'approche ambiguë du Parti civique démocrate, principal parti gouvernemental, et aux obstructions des communistes.
Comment voyez-vous le fait que la Tchéquie n'a pas encore entamé le processus de ratification du traité de Lisbonne, un handicap pour la Tchéquie, pour l'Europe?
Je veux dire, d'abord, ce qui me frappe le plus, c'est ces hésitations. Ça fait des mois qu'on nous annonce, c'est pour demain, c'est après-demain, puis maintenant, c'est plus pour demain, c'est pour peut-être avant le 1er juillet, fin de la présidence tchèque. Vous pouvez imaginer que, s'agissant pas d'un référendum en République tchèque, eh bien que la République tchèque règle cette affaire en interne au niveau de son Parlement, Assemblée et Sénat, pour ne pas avoir ça, comme on dit vulgairement, dans les pieds pendant sa présidence. Vous savez, tout le monde a le regard tourné maintenant peut-être plus encore vers la République tchèque que vers l'Irlande. Parce que si vous ratifiez, à mon avis, le traité de Lisbonne est quasiment ratifié. Moi, c'est le point de vue, c'est mon point de vue personnel. Mais c'est plus une question entre les Français et les Tchèques, hein, en tout cas entre les autorités françaises et les autorités tchèques. Le traité de Lisbonne est voulu et attendu par 25 pays qui l'ont ratifié jusqu'à présent, et des pays qui sont très importants pour vous, qui sont vos alliés, dont vous avez des relations bilatérales privilégiées. C'est-à-dire que peut-être que ces alliés, après, se poseront des questions concernant le positionnement de votre pays. Donc voilà.
Vous avez dit dans l'une de vos interventions que vous espériez la ratification du traité avant la fin de cette année. C'est ça? Gardez-vous toujours votre optimisme?
Écoutez, si la République tchèque ratifie dans les meilleurs délais, en tout cas au plus tard, à la veille de la présidence suédoise, eh bien, à ce moment-là, les Irlandais, apparemment, sont mûrs, sont prêts pour un nouveau référendum, compte tenu de la conjoncture financière et économique. Donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir la ratification pour la fin de l'année. Et je vous assure qu'on en a bien besoin. On en avait besoin déjà avant la crise, et maintenant, on en a encore plus besoin avec la crise. Et quand on parle de l'Europe, je vous le disais tout à l'heure, il faudrait se poser la question, et si l'Europe n'existait pas? Dans le contexte actuel de la crise financière, économique et sociale, qu'est-ce qui se passerait? Je peux vous dire que les dégâts seraient d'une autre nature et d'une autre ampleur que ceux que nous vivons en ce moment.
Jusqu'ici donc, M. Hubert Hennel, sénateur français. Difficile d'évaluer comment les Tchèques, eux, voient le traité de Lisbonne, car les sondages de différentes agences révèlent des résultats entièrement contradictoires. Selon l'agence STEM, plus de 60% de la population le soutenait en janvier, Et le tout récent sondage du CVVM montre en revanche qu'un tiers des personnes interrogées seulement lui serait favorable.
Est-ce que d'après vous, le débat européen est suffisant ?
Oh non, il n'est pas suffisant nulle part. Mais, je veux dire, pas seulement chez vous, mais chez nous, il est insuffisant. On l'a bien vu au moment du référendum pour le traité constitutionnel. Les Français ont découvert l'élargissement, on ne leur avait pas expliqué l'élargissement, notamment l'élargissement vers votre pays. On ne leur a pas expliqué que c'était la réunification de l'Europe, c'est l'Europe qui se retrouvait et que ce n'était pas un élargissement vers des gens étrangers à l'Europe. Quand je leur expliquais ça dans les réunions que je faisais, ils comprenaient, mais ils disaient, mais pourquoi qu'on ne nous l'a pas expliqué? Vous voyez, donc on n'explique pas assez l'Europe en permanence. On essaye d'expliquer l'Europe, mais il est trop tard, à la veille des chances comme un référendum, ou à la veille des chances comme les élections européennes que nous allons avoir dans quelques temps. Et compte tenu de la conjoncture, il est à craindre que les souverainistes, les nationalismes, les protectionnistes reprennent du poil de la bête, comme on dit, et le haut du pavé. Chez vous comme chez nous, ou chez nous comme chez vous.
Quelles sont, d'après vous, les menaces de l'Europe, de l'Union européenne aujourd'hui? Elles sont plutôt extérieures ou intérieures?
Les menaces, c'est d'abord une menace interne. Si les Européens ne comprennent pas l'intérêt qu'il y a à construire une Europe plus intégrée, une Europe qui pèse à la fois financièrement, économiquement et politiquement dans le monde, et si chacun regarde midi à sa pendule et regarde en disant le salut nous viendra par exemple des États-Unis. On a énormément des besoins des États-Unis, hein, mais les États-Unis voient aussi midi à leur pendule. Quand il faut toujours regarder un globe terrestre. Quand on regarde ce qu'est l'Europe, hein, notre Europe là, les 27, par rapport au globe terrestre, ce que le Tchéquie, ce qu'est la France, tout ça, c'est rien du tout. N'oubliez pas que les États-Unis s'éloignent culturellement de plus en plus de l'Europe parce que ceux qui ont fondé les États-Unis il y a déjà longtemps n'ont plus de véritables attaches familiales, humaines, culturelles avec leur pays d'origine. Est-ce que vous savez aussi qu'au Congrès américain, il y a beaucoup de membres du Congrès qui n'ont même pas de passeport? C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu autre chose que leur propre pays. Donc, M. Obama est là, beaucoup d'espoirs sont placés en lui. Eh ben, on va voir ce qu'il va nous dire dans les prochains temps, notamment à propos de l'OTAN, puisqu'il vient à Strasbourg et à Kiev, Strasbourg se trouvant dans la région dont je suis l'élu.
Les élections européennes approchent. Pensez-vous que la crise économique et financière actuelle donne plus de chances à la gauche?
Non, pas à la gauche. À l'extrême gauche et à l'extrême droite. Pas à la gauche. Pas à la gauche de gouvernement ni à la droite de gouvernement. Le danger, il est là. Et le danger, il est là. Se refermer sur soi, le nationalisme, le souverainisme, chacun pour soi. Et on dit Dieu pour tous, mais là, ça ne sera pas chacun pour soi et l'Europe pour tous. Ça ne sera malheureusement pas l'Europe pour tous.
C'était le miroir de la société aujourd'hui avec le sénateur français, M. Hubert Hennel.
Et nous sommes déjà arrivés à la fin du programme d'aujourd'hui, mais Radio Prague vous donne naturellement rendez-vous à l'écoute d'une de ses prochaines émissions sur les ondes, le satellite ou le web, sur www.radio.cz.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.